Bienvenue au monde des idées. Écoutez, j'ai toujours eu l'attention de ne jamais enseigner que ce que je ne savais pas. Cette déclaration très modeste et en même temps d'une modestie très orgueilleuse a été faite par un très grand professeur au siècle d'avant le siècle que nous allons revisiter, le 20e, au 19e siècle. C'était Jules Michelet, le grand historien. Et on la retrouve au début d'un livre d'un professeur qui présente quatre de ses leçons. Leçons sur l'époque, leçons sur notre modernité. Faut-il être moderne? Qu'en est-il de nous autres modernes? Ce professeur, vous ne le connaissez pas trop sous ce visage-là. Vous le voyez plutôt tempétant sur l'actualité, vitupérant, avec des colères, avec peut-être des colères justes, peut-être des colères injustes à chacun de juger. C'est Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, vous nous revenez avec ce livre, publié aux éditions de l'École Polytechnique, Ellipse, qui va être en librairie ces prochains jours, et qui, justement, donc, présente ce que vous enseignez à Polytechnique. C'est peu connu du grand public, tout bêtement. D'ailleurs, c'est la première question que vous vous posez. Vous dites, vous ne savez pas trop ce que vous enseignez. Vous enseignez quoi à Polytechnique, à ces élites futures de la nation?
Oui, parce que j'ai été recruté, déjà en 1988, au département Humanité et Sciences Sociales, en remplacement de Jean-Marie Domenac. Et donc j'ai à me poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais enseigner?
Est-ce que c'est pas l'alibi, le supplément d'âme?
Donc pour moi,
pour
c'était...
ces scientifiques...
Oui, ça pouvait être pour eux, justement, ne donner autre chose qu'un supplément d'âme à ces scientifiques et saisir une occasion extraordinaire. Parce qu'en effet, je ne peux pas résister une nouvelle fois à citer Peggy, mais celui-ci disait « Je travaille dans les misères du présent ». Par quinzaine, c'est aussi mutatis mutandis.
On reviendra sur les misères du présent.
Mon cas, mais précisément, le risque est constamment pour moi, dans la mesure où je vais essayer de penser l'événement et à partir de l'événement, de sombrer dans l'actualité, d'être aliéné à l'actualité. Polytechnique m'obligeait à un autre rapport aux choses, à un autre rythme, à un autre tempo. J'ai continué à penser à partir de l'événement, mais de manière différente et plus calme. Et j'ai compris que ce que je devais enseigner à mes étudiants, c'est moins tant la philosophie, d'une certaine manière, que leur philosophie. Parce que j'ai appris moi-même à aimer la philosophie quand j'ai vu en elle autre chose qu'une succession de palais plus ou moins baroques ou classiques, mais quand j'ai compris qu'elle m'aidait à comprendre le monde et quand j'ai compris aussi que certaines, que philosophes ou non, par profession, nous pensions dans une certaine philosophie ou dans une certaine métaphysique. Il y a cette phrase de Jonas que je cite aussi dans l'introduction,
Jonas,
Descartes non lu nous détermine que nous le voulions ou non. Si dès lors que nous savons que nous sommes modernes, nous impliquons une certaine philosophie et j'ai voulu l'élucider aux yeux de mes élèves.
Vous dites que plutôt que de penser le monde, vous préférez vous poser les questions que le monde pose. D'une certaine manière, interpeller le monde, le suivre. Alors, il y a une question qui vient tout de suite dans la mesure où l'actualité est aussi votre matière. L'actualité et puis aussi la citation, ça m'a frappé. Il y a 4 citations dans les 3 pages d'introduction, comme si vous vouliez être accompagné, ne pas être seul. Alors, quelle est la différence, je provoque un peu, entre un philosophe et un journaliste? Un philosophe qui est commentateur d'œuvres, qui est commentateur du présent, et le journaliste qui est aussi confronté et obligé de commenter le présent. Puisque vous êtes à cheval, au fond, sur ces univers-là. Entre
oui.
L'enseignement et votre activité, je dirais, de publiciste à la radio, dans les journaux.
Bien, la différence est plus difficile à faire maintenant que le philosophe n'a plus à sa disposition un système général et notamment plus une philosophie de l'histoire. Nous sommes revenus, ou nous devrions l'être, des philosophies de l'histoire qui veulent enfermer le temps. D'où l'importance pour nous de l'événement et d'un rapport à l'événement. Hannah Arendt, philosophe, Dieu sait, pense en fonction de l'événement. Évidemment, le privilège ou la chance du philosophe, c'est celle de la rumination, de la méditation, du retour sur les choses,
une certaine distance.
Une certaine distance et peut-être aussi une certaine vieillesse. Vous êtes en dialogue avec d'autres philosophes qui sont souvent très anciens. Vous avez cet appétit de vieillir et même de vieillir violemment dès lors que vous avez besoin de ce détour pour éclairer le temps que nous vivons. Alors, cela dit, je crois que je n'ai aucune condescendance, aucun mépris à l'égard de la profession journalistique, bien au contraire, car l'esprit de système nous a fait beaucoup de mal. Et je vois les journalistes, quand ils obéissent à leur vocation, comme les gardiens des vérités factuelles, ceux qui nous font apparaître les réalités qui résistent au système. Mais il y a parmi les journalistes aussi des esprits systématiques et évidemment là la polémique peut naître. Mais je ne me vois pas ni comme un rival, ni a fortiori comme une espèce d'instance surplombante par rapport aux journalistes.
J'ai dit tout à l'heure qu'on allait découvrir un autre Finkielkraut, c'est ce que j'ai eu, ce sentiment en vous lisant là. Plus apaisé, moins colérique. Et je vais au-delà. Et là, j'aimerais que vous fendiez l'armure un petit peu. Ce livre, ça m'a frappé. Il s'ouvre sur la mort. En l'occurrence, une phrase de Barthes qui dit « Finalement, je peux m'autoriser. Il peut être moderne. Et l'événement, c'est la mort de sa mort, de sa mère. » Mais il continue. La mort est omniprésente. Ça se termine par ce superbe livre de Fritz Horn, « Mars ». Ce Suisse qui meurt d'un cancer, et le cancer, ce n'est pas un hasard, dit-il, etc. Et puis le sida, la pandémie du sida, la peur à la fin. On a l'impression dans ce livre que vous êtes habité par une infinie tristesse.
Je pense que cette tristesse, elle est présente aussi dans mes colères, mais je n'ai pas à fendre l'armure. Je pense que vous avez vu ce leitmotiv, et d'ailleurs il m'est apparu a fortiori à moi-même. Lorsque l'école polytechnique m'a dit on peut publier ses cours, j'ai dit mais oui, pourquoi pas. Je croyais d'ailleurs simplement donner mes polycopiés. Je me suis rendu compte que de la transcription à l'écriture d'un livre, il y avait un immense chemin que j'ai refait. Donc j'ai écrit pour que ça constitue un véritable livre. Et c'est après coup que je me suis rendu compte, en effet, de la présence de cette thématique de Barthes, qui dit « tout d'un coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne », et qui le dit parce qu'à un moment de sa vie, il se rend compte qu'il est un survivant, il porte le deuil, un deuil...
De l'être le plus cher, qui est sa mère.
Et qui est sa mère. Donc c'est un deuil en plus difficile à assumer, c'est pas Eurydice, c'est un deuil, on dit « voilà, ben c'est normal de perdre sa mère ». Et il y a là une sorte de... Tout d'un coup, quand on est survivant, on est moins Prométhée qu'Orphée. Donc, on a plus le sens du tragique. Et pour être moderne, et résolument et exclusivement moderne, eh bien, il faut voir l'avenir avec une confiance absolue. Et en effet, dans le dernier cours sur la question des limites, la mort intervient à nouveau. J'ai notamment été très impressionné par un texte que j'ai découvert à la faveur de certaines lectures, un texte que je crois extraordinaire, fondateur de la modernité, Léopold von Teppel ou von Zatz, on utilise les deux termes, un écrivain public dans la Bohème du début du XVe siècle. Et il met en scène un laboureur qui vient de perdre sa femme. C'est arrivé. Il dit sa douleur. C'est arrivé aussi. C'est la littérature des origines à nos jours. L'élégie, sauf que sa douleur n'est pas élégiaque, elle est accusatoire. Il s'en prend à la mort, il la traite de criminelle. Quelque chose apparaît de la modernité, si vous voulez, car la mort, aux temps anciens, rappelait à l'homme qu'il était un pécheur, ou elle lui offrait les consolations d'un autre monde. Et là, le pécheur laisse place au plaignant. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que on ne veut certes pas vaincre la mort, mais soulager le sort des hommes, vaincre au moins la mort violente et la mort prématurée. Pour le pire parce que ce plaignant absolu peut constituer, comme c'est le cas aujourd'hui, un monde terriblement rationnel et terriblement paranoïaque.
Ce que je voulais dire, c'est que, en effet, c'est cohérent avec vos colères, que vos colères, en fait, qu'on les approuve ou non sur le contenu, sur le fond, elles cachent, elles abritent, elles protègent ou elles masquent d'immenses larmes. C'est comme si vous étiez un inconsolé permanent. C'est d'ailleurs un des chapitres où toujours Michelet, j'aimais la mort, dit Michelet, et Michelet dit qui ne pleure pas ne voit pas. Vous êtes inconsolé, et au fond inconsolé des catastrophes du siècle. C'est oui. Comme si, au fond, dans vos colères, dans vos vitupérations, c'est le fait d'être inconsolable.
Il y a quelque chose comme cela. Il y a une part, disons, de désespoir. Le mot est un peu emphatique. Dans ce que vous appelez ces colères, et c'est peut-être un sens un peu plus métaphorique de la mort, mais je vois des choses disparaître. Je ne suis plus, et je le regrette, progressiste. Je porte le deuil du progressiste, c'est-à-dire je n'arrive plus à m'inscrire dans la perspective d'un temps prometteur. J'ai des colères, par exemple, sur la question de l'école. Vous le savez, je l'ai exprimé dans le journal que vous dirigiez, etc., Et ailleurs, mais j'ai le sentiment, en effet, qu'un désastre a eu lieu et que c'en est fini de quelque chose que j'ai connu. De même avec la culture, oui, je pense qu'elle cède la place. Je vois cela, effectivement, et je dois même dire que le désespoir s'est aggravé parce que j'ai eu une période très militante où je croyais pouvoir faire face au désastre. Maintenant, je le constate, mais je ne milite plus.
Vous déplorez. Vous déplorez.
En tout cas, je décris, j'observe ce qui m'apparaît être comme un effondrement, oui, en effet, de l'école et aussi, par exemple, de la langue.
Mes questions, qui ont l'air privées, personnelles, psychologiques, en fait, ont profondément à voir avec le propos. Et je voudrais que vous fassiez cette comparaison. À un moment, à propos de la mort, vous évoquez Montaigne. Montaigne, c'est la mort d'un être, l'être le plus cher, la Boétie. Et la différence, il n'est pas dans la déploration. La mort, c'est le bout, ce n'est pas le but. Il voyage, il gambade, il est dans une sorte de jouissance de la découverte, de la complexité du monde, de ses ouvertures. Il n'est pas dans la déploration. Seriez-vous une sorte d'anti-Montaigne?
Non. D'ailleurs, je ne veux pas me comparer
non, mais
à
sans,
lui.
Mais
je... Non, et en plus, je me sens en dette vis-à-vis de Montaigne, qui est l'un des plus grands auteurs dont la France
peut s'enorgueillir. Vous voyez bien qu'il ne réagit pas.
Oui.
Il vit un immense ébranlement, les guerres de religion, la découverte d'autres mondes, etc. Beaucoup de choses disparaissent,
oui.
Des peuples entiers.
Oui.
Et il n'est pas dans le même état.
D'abord, il n'est pas dans le même état parce que Montaigne est à sa manière, lui, un anti-Socrate. Socrate, dans le Phédon, dit, au fond, la vraie vie, c'est d'une certaine manière la mort. C'est-à-dire qu'il faut être mort à la vie des sens pour accéder à la vérité du monde. Donc, je vais mourir, mais je vais rejoindre je vais rejoindre ma vérité, mon âme sera enfin débarrassée de son corps, et bon débarras. Et c'est à ce moment-là que Montaigne dit, à l'adresse justement de cette grande tradition philosophique du memento mori, et apprendre à mourir, ou apprendre même à aimer la mort comme la vie suprême, non, la mort n'est pas le but, mais le bout de la vie. Et là, il y a une réconciliation magnifique, qui est celle de l'humanisme, en effet, avec le monde terrestre. Et Montaigne substitue à l'idéal de la contemplation celui de la curiosité. C'est l'émerveillement de la Renaissance. Mais je ne crois pas que nous vivions aujourd'hui une Renaissance. Nous vivons tout autre chose. Parce que la Renaissance, elle est apparue justement avec la culture, une culture qui prenait la place occupée par la théologie. Mais quand la culture disparaît, c'est pas pour céder la place à une autre culture, mais peut-être par exemple au monde de la technique, et c'est tout autre chose.
C'est ce que nous allons voir après les dernières nouvelles, en revisitant cette fois-ci, on a vu le personnage. Maintenant, on va feuilleter le livre, la modernité, nous autres modernes, avec Alain Finkielkraut. Retour au monde des idées, nous sommes avec le philosophe Alain Finkielkraut pour Nous autres modernes, la version écrite de quatre cours professés à l'école polytechnique par celui qui justement enseigne la philosophie et les sciences humaines à Polytechnique. Alors les modernes, Les modernes, je vous cite Alain Finkielkraut, les modernes, comme leur nom l'indique, pensent que l'histoire a un sens, que ce sens conduit jusqu'à eux, et que la masse immense de besoins, de désirs, d'intérêts, d'opinions et de représentations individuelles constitue les moyens dont se sert la raison pour établir son règne. Alors, on a l'impression d'avoir une définition là. Et en même temps, quand on feuillette le livre, on se dit, sous votre plume, le moderne, c'est le mouvement, le moderne, c'est la pureté, le moderne, c'est le progrès, le moderne, c'est l'histoire, le moderne, c'est l'humanisme. C'est le pire et le meilleur. C'est les deux à la fois, sans indissociablement.
Sans aucun doute. Et d'ailleurs, le titre a été choisi.
Vous en êtes.
C'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, oui. Bon, on dit que je suis anti-moderne. On dit que je suis conservateur, voire réactionnaire. J'assume le conservatisme, comme par exemple...
Socialiste, conservateur, excusez-moi, vous m'avez tendu la perche. Il y a une sorte d'autoportrait sous la plume d'un intellectuel polonais, Leszek Kolakowski, qui a fait un livre en disant, voilà, comment être socialiste, conservateur, libéral. Et on se demande si c'est pas vous, ça.
Peut-être. Et c'est à mon avis une leçon admirablement tirée du XXe siècle. Comment être socialiste, conservateur, libéral. Conservateur, c'est-à-dire
tout à
non
la fois,
pas
donc.
Un homme crispé sur ses privilèges, mais un homme qui honore l'origine, qui vit sous le regard des morts et qui trouve toujours trop cher le prix à payer pour le progrès. Mais vous avez raison. La modernité a plusieurs visages. Et quand j'ai fait cette première leçon, c'était d'ailleurs ma première leçon à l'école polytechnique, je ne savais pas où j'allais. J'ai tâtonné. Faut-il être moderne? C'est une question née en moi de la lecture de Barthes et de ce renversement extraordinaire. Il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne. La modernité est une injonction à laquelle il obéissait, alors qu'elle se présente comme un processus de libération, un impératif qui l'étouffait lui-même. Et tout d'un coup, il s'en libère. Alors, on peut se libérer de la libération, mais en même temps, c'était mon idée initiale. Et j'ai constaté, justement, en réfléchissant à cette question, qu'il y avait ces deux postulations dans le moderne. La postulation de la table rase. Puisque progrès il y a, inutile de regarder en arrière. Aujourd'hui est meilleur qu'hier, et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Une vision de l'histoire gagée, d'ailleurs, sur le progrès des sciences. Alors, progrès linéaire pour les uns, dialectique pour les autres, mais la promesse moderne, c'était pas simple. Ça pouvait être la table rase, ça pouvait être aussi la table ouverte. On ne laisse personne en dehors de la cité, mais également en dehors de la culture. Et la mainmise de l'industrie culturelle et de la consommation sur la culture m'est apparue, en y réfléchissant précisément, comme une attaque contre cette promesse moderne. Parce que si on fait table ouverte avec du Reader's Digest, avec des produits purement comestibles, alors qu'en reste-t-il? Et peut-être vivons-nous le divorce de la promesse et du progrès.
Deux objections pour vous amener à préciser votre pensée à la lecture de ce livre qui appelle le débat. La première, c'est une vieille histoire, la critique du progrès. Peggy, Nietzsche, bon, ça a commencé, je dirais, avec le progrès lui-même, avec la fin du XIXe siècle. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours dans une époque où le courant dominant, c'est de dire demain on rasera gratis, c'est les lendemains qui chantent? Est-ce qu'au contraire, comme le dit un historien, François Hartog, on n'est pas envahi par le présent? On n'a pas confiance dans le futur, on n'a pas confiance dans le passé, et notre problème n'est pas demain, n'est pas le progrès, notre problème c'est le présent. Première objection. Et deuxième objection, le progrès. Quand on entend progrès, on pense progressiste. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis plus progressiste. Mais le progrès a toutes sortes de visages. Envahir l'Irak pour apporter les droits de l'homme, ou au pays de la modernité et de la puissance, des digues tombent et tout d'un coup on voit l'immense misère et la pauvreté, je pense évidemment à Katrina et à la Nouvelle-Orléans. Donc chez les néo-conservateurs du président Bush, il y a aussi une vision du progrès.
Mais
deux objets,
mais
si
alors,
vous
d'abord,
pouvez préciser.
Pour moi, et je le dis d'ailleurs, je crois, dans le livre, les néo-conservateurs ne sont pas des conservateurs au sens de Kolakowski.
Vous laissez ouvert la question sur le XXIe siècle.
Oui,
un moment.
Et simplement, en effet, vous avez raison, le progressisme naïf n'a pas complètement disparu mais s'est marginalisé. Mais par quoi a-t-il été remplacé? Dans ce qu'il faut bien appeler l'état d'esprit du jour, l'idéologie dominante, celle que l'on respire, par une sorte de scepticisme rieur, postmoderne. On ne dit pas « c'est ce qui arrivait mieux », mais on dit « pourquoi pas ». Je vous donne un exemple tiré d'un journal, non pas français, on ne va pas entrer dans des polémiques. J'ai nommé, j'ai acheté l'autre jour, en prenant le train, « The Economist ».
Le hebdomadaire britannique de référence,
voilà, de référence
très vous intelligent. L'avez
dit, très intelligent, de référence. Eh bien, l'éditorial et la couverture portaient sur les videogames. Est-ce qu'ils nourrissent le mal? Puisqu'on s'interroge sur les vertus des videogames. Et bien entendu, le journaliste concluait en disant, mais vraiment, il n'y a pas de quoi se faire du mouron. C'est une nouveauté. Les nouveautés ont toujours été mal considérées. Le cinéma, par exemple, a été jugé un divertissement, dit l'autre. Cette nouveauté apportera du bien. Et de toute façon, ceux qui la détestent vont disparaître un jour. Et donc, il n'y a de raison que de se réjouir. Et comme on n'a pas aujourd'hui ni d'idée claire du progrès, ni d'idée de référence de la nature humaine, notamment quand on n'est pas catholique, on dit, eh bien, qu'est-ce que nous apprennent les sciences humaines? Elles nous apprennent la plasticité infinie de l'humanité, la possibilité pour elles de toutes sortes d'expériences, moyennant quoi nous sommes, si vous voulez, dépouillés du droit de juger ce qui nous tombe dessus, ces inventions non moins télées les unes que les autres, disait Peggy en 1907, au nom précisément de l'infinie malléabilité de l'homme. Et c'est une manière de désarmer le jugement face à ce qu'on a un certain nombre de raisons d'appeler la barbarie. Et ça me paraît très grave parce que vous me citiez Montaigne, mais Montaigne c'était l'affirmation d'un détour nécessaire par les œuvres pour comprendre. Montaigne ne cessait de citer précisément. Et lorsque les hommes n'empruntent plus ce chemin des écoliers, qui est aussi le chemin de l'école, lorsque, par exemple, ils lisent autre chose, les adolescents notamment, et des magazines, ou lorsqu'ils développent leurs facultés sur Internet, on vous explique, voilà, c'est un changement, et le changement est bon comme tel, non pas parce que c'est un progrès, mais parce que la nature humaine n'existe pas. Donc, je pense personnellement que il n'est pas moins difficile aujourd'hui qu'hier, au temps du progressisme dominant, d'adopter sur la modernité la plus effrayante un point de vue critique.
Alors, évidemment, et tout le livre est au fond d'essayer d'échapper à ce malentendu, mais ce malentendu persiste, mes yeux, à la fin du livre, une fois refermé. Il y a toutes sortes de critiques de la modernité. Il y a une critique pour faire une... qui n'auront pas avec l'idée d'espérance. Et puis, il y a des critiques qui sont de l'ordre du déclin, de la décadence. Ces personnages sont là chez vous. Vous montrez que la catastrophe, elle commence avec 1914. Le cher Peggy, il y va, toutes armes déployées, dans un suicide glorieux. Vous parlez d'Heidegger, grand critique de la technique. Mais vous le rappelez, Heidegger, et ce n'est pas un engagement, une foucade, son engagement du côté du nazisme. Donc, comment échapper à une critique de la modernité qui ne flirte pas avec cette vieille rhétorique réactionnaire, beaucoup plus que conservatrice, de la décadence, de la déploration, du déclin. C'est au cœur du débat politique d'aujourd'hui.
Le mot, je n'utilise là jamais le mot de décadence, mais je voudrais aussi qu'on m'explique en quoi une critique de la domination est à même de saisir les phénomènes qui nous assaillent de tous côtés. Parce que le siècle nous oblige effectivement à considérer avec beaucoup de méfiance ceux des critiques de la modernité qui ont choisi le pire. Mais ils nous obligent d'un autre côté à en finir avec le simplisme politique de la critique de la domination. Parce que On nous dit le mal, et ça vient de Rousseau, le mal dans l'homme procède de la domination. Les dominants sont les coupables. Et les coupables de tout, les dominés sont toujours innocents. Et cela a des conséquences absolument terribles, parce que il n'est plus possible de saisir la réalité comme elle est. Si le dominé est excusé, alors on en vient à justifier les pires barbaries dès lors qu'elles procèdent d'une certaine souffrance. Et puis surtout, la critique de la domination, elle pense le monde en termes de volonté. Au fond, il faudrait mettre fin aux agissements des volontés mauvaises, au complot des âmes noires, pour, eh bien, rétablir l'humanité dans ses droits. Mais ce que Heidegger nous apprend, c'est que le monde dans lequel nous vivons échappe à la volonté, qu'il y a en lui une forme d'automatisme. Et d'ailleurs, ce à quoi nous sommes obligés, et là, déclin ou non, peu importe, c'est à réfléchir en termes de limites. Et ça, évidemment, nous n'avons pas été programmés pour les limites. Le programme de la modernité, c'est à la maîtrise de la nature pour soulager le sort des hommes. Eh bien, à force de maîtrise, nous avons déclenché des processus imprévisibles ou en tout cas incontrôlables. Il revient à Prométhée, justement, de se serrer la ceinture. Et se serrer la ceinture, c'est une exigence faite aussi bien aux États qu'aux sociétés. Et si en France, on dit, voilà, l'État et les hommes politiques sont coupables de tout, et la société citoyenne par essence est toujours innocente et peut se contenter d'avancer ses droits et ses revendications, on n'en sortira pas. Le principe responsabilité dont parle Jonas, qui est vraiment la conversion qui nous est demandée, elle nous est demandée à tous. Donc, il faut en finir avec les facilités d'une certaine critique de la domination pour tenir sur la modernité et la postmodernité le discours critique que celle-ci mérite.
Alain Finkielkraut, il nous reste peu de temps, il y aurait plein de choses à... Il y a une défense de la poésie, d'ailleurs, au détour de ce livre.
Oui, bon, c'est vrai.
Faut-il être moderne? C'est aussi le débat sur la culture, culture scientifique, culture technique, culture littéraire. Il y a mille choses qu'on peut se promener dans ce livre. Alors, je pourrais prendre plein de thèmes pour terminer, mais voilà. Vous faites un éloge des témoins, des survivants, de ceux qui, dans le siècle barbare qui nous a précédés, ont justement su et penser contre eux-mêmes, être fidèles au fond à une liberté de la pensée. Alors l'un d'eux, c'est David Rousset, qui a cette bizarrerie d'avoir été à la fois trotskiste et gaulliste. Alors je voudrais vous lire et vous demander juste de réagir, très peu de temps, les dernières lignes de son dernier livre. La révolte est au commencement, la révolte est à la fin. Le refus de la société, de son scandale et de ses ignominies, le refus d'accepter, toute l'intelligence du monde ne saurait remplacer cette indignation qui mobilise l'être entier, cette merveilleuse insatisfaction de l'adolescent, cette folie de la vérité et de la justice, du Dieu inconnu qu'il habite. Voilà ce qu'il faut tenir éveillé contre l'érosion du temps. Puissions-nous maintenir intacte cette ferveur jusqu'au jour de notre mort? Commentaire.
Ce texte m'évoque un autre texte, la préface de Milan Kundera au Miracle en Bohème de Joseph Zoritsky. Comparaison entre le printemps de Prague et le printemps de mai. Mai, explosion de lyrisme révolutionnaire, la jeunesse qui se déploie. Le printemps de Prague, explosion de scepticisme post-révolutionnaire, révolte populaire des modérés. Je crois à cette révolte populaire-là et je crois que la modération... C'est aujourd'hui la subversion par excellence. Et laissez-moi terminer sur une citation. Pourquoi la modération est-elle la subversion par excellence? Eh bien, c'est Walter Benjamin qui déjà le disait lorsqu'il affirmait que la révolution n'était pas la locomotive de l'histoire, mais la main de l'espèce humaine qui tire la sonnette d'alarme pour arrêter le train fourvoyé dans la mauvaise direction.
Éloge de la révolution par un modéré, Finkielkraut, nous autres modernes. Merci.